Manuela Florio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditrice, mais aussi peintre, illustratrice, sous le nom de Fontenelle. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à éditer un livre témoin sur la situation dans la jungle de Calais. Avant d'en parler, on va expliquer un peu votre parcours.
Alors, en fait, j'écris depuis toujours. Depuis que je sais écrire, j'invente des histoires, j'écris des nouvelles, des contes. Et donc, tout mon parcours scolaire s'est orienté dans le but de devenir journaliste. Ce qui ne s'est pas du tout passé comme prévu, puisque une fois j'ai intégré l'IUT de Infocom à Lannion, donc en section journalisme, et j'ai abandonné en cours de route.
Et pourquoi?
Parce que je sentais que c'était pas du tout ma voie finalement, alors que c'était vraiment ce que je voulais depuis toute petite. Et un peu par hasard, je me suis retrouvée à dessiner. Je n'avais vraiment jamais dessiné et j'ai commencé à dessiner à 20 ans. Et ça fait 6 ans et depuis, j'ai jamais arrêté. Je me lève pour dessiner, je vis pour dessiner, pour peindre. Mmh. Et il y a un an, je me suis rendu compte que j'écrivais toujours des histoires, mais que je dessinais aussi toujours. Du coup, j'ai commencé à auto-éditer des livres. Ça a très bien marché, donc j'ai fait des rééditions, je les vends sur les marchés de Noël, les salons du livre, voilà.
Et vous avez quel statut alors ?
J'ai le statut d'auto-entrepreneuse. Voilà, c'est pas un statut évident, mais c'est ce qui m'a semblé le plus simple pour démarrer.
Et vous avez imaginé aller voir justement des maisons d'édition pour valoriser votre travail et puis faire en sorte que ces livres soient édités ?
Oui, j'y ai pensé, mais je ne l'ai toujours pas fait. Parce que, en fait, j'ai quand même des soucis en communication. Disons que je préfère passer. Je mets la priorité au temps passé dans l'atelier, au temps passé à écrire des histoires et à imaginer des choses, et j'arrive pas du tout à. C'est important, j'apprends, mais voilà, c'est pas le plus évident pour moi.
Le premier livre, c'était un livre pour enfants ?
Oui, l'histoire de la petite graine qui ne voulait pas pousser. Donc c'est pour les enfants de 1 à 5-6 ans environ.
Et c'est une histoire poétique, c'est...
Ah, il faut lire le livre pour le savoir, mais oui, c'est une histoire poétique qui plaît aussi aux grands, parce que donc c'est l'histoire de la petite graine qui ne voulait pas pousser, et le soleil vient se renseigner sur la chose, et elle lui explique toutes ses peurs, tout ce qui va se passer, toutes ses craintes, et voilà, il y a une discussion avec le soleil, et au final... Au final, voilà.
Et tout cela, vous l'illustrez en même temps. Alors comment est-ce que vous travaillez ? Vous écrivez le texte au départ et vous l'illustrez ensuite, ou ça vient en même temps ?
En fait, au début, j'ai donc une histoire décrite, mais ça s'auto-nourrit. Des fois, les illustrations amènent à quelque chose d'autre. Et c'est génial parce que vraiment ça, il y a pas après je travaille aussi pour des auteurs où là j'illustre leur texte, et j'ai aussi écrit des histoires pour une illustratrice, mais là je trouve ça vraiment intéressant aussi d'illustrer ses propres histoires, parce que du coup des fois ça fait avancer le récit et ça le fait évoluer.
Quelle technique vous utilisez-vous?
Alors, c'est très, très varié. Sur les deux premiers, c'était essentiellement aquarelle, encre. Mais depuis un an et demi, j'ai découvert les techniques d'impression. Et là c'est devenu encore une grande passion. Et là, justement, le dernier livre sur lequel je suis en train de travailler, il est vraiment beaucoup axé sur l'impression. Donc, monotype, gravure et tous ces procédés techniques-là. Mmh, mmh.
Vous travaillez sur informatique ?
Justement, je débute une formation en infographie en parallèle, parce que ça semble nécessaire au bout d'un moment.
Le deuxième livre s'intitule « L'extraordinaire ordinaire de Monsieur Jean ». C'est, vous le présentez comme une fable pour adultes.
C'est ça. En fait, c'est venu sur une réflexion sur le travail, sur la violence que ça peut avoir dans le quotidien. En fait, Monsieur Jean, il travaille à la chaîne dans une usine de trombones, de petits trombones pour les papiers, pour les fournitures de bureaux. Et à la fin, bon, je raconte la fin. Allez. À la fin, Monsieur Jean se retrouve à luthier, avec un grand quiproquo. Il se retrouve luthier de trombone à coulisses et il se retrouve à fabriquer son propre trombone à coulisses et à trouver comme ça un sens à sa vie.
Qu'est-ce qui vous inspire alors, Manuela ?
Les gens.
Les gens, les histoires extraordinaires aussi.
Oui, les histoires ordinaires, les petites pipites du quotidien.
Vous avez donc monté, alors j'allais dire vous avez monté votre maison d'édition, mais non, puisqu'il n'y a pas de maison d'édition, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, enfin, j'auto-édite mes livres.
Est-ce que c'est facile ?
Non, c'est très 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 difficile. Et des fois, je suis très découragée, mais quand je suis en dédicace face à un enfant tout souriant ou un adulte ravi, alors là, c'est... j'oublie tout ça.
Quelles sont les embûches que l'on rencontre quand on veut éditer à son propre compte ?
Tous les papiers, là, il faut bien s'y coller parce qu'il y a les numéros ISBN, toutes les déclarations à la BNF, tout ça. Et puis la diffusion, en fait, parce que c'est moi qui gère la diffusion de mes livres et ça, c'est vraiment fastidieux d'aller chercher, d'aller... Après quelques marchés, on est contacté, ça commence à se faire, mais il faut quand même être tout le temps sur le qui-vive et puis se demander bah, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, parce qu'il y a quand même aussi de l'argent en jeu. Et oui, c'est un peu épuisant.
Et comment vous les fabriquez, vos livres ?
Alors, je travaille avec une imprimerie. Et donc, c'est eux qui gèrent l'impression. Et là, en fait, jusque-là, mes livres sont imprimés en format... ils ne sont pas en carré collé, c'est-à-dire qu'ils sont en brochure, en fait, en format brochure. Donc, voilà.
Manuela Florio, vous préparez un troisième livre qui s'intitule « À Calais ». C'est un livre témoin sur la situation dans la jungle de Calais, une situation que vous avez observée vous-même.
Oui, avec un groupe d'amis, on s'est rendu à Calais et pendant quelques jours pour apporter notre aide, pour tenter d'apporter du soutien là-bas. Et en revenant, voilà, l'évidence était là, il fallait faire un livre sur la situation là-bas.
Sur place, vous avez croqué, dessiné ?
Ah oui, énormément. Au début, donc, j'ai aidé à la cuisine, à l'école, mais de plus en plus, j'ai commencé à dessiner timidement des portraits. Et au final, je me suis habituée à dessiner avec 10 Afghans derrière qui regardaient et qui faisaient des commentaires. Et les migrants me demandaient des portraits. Au fur et à mesure, tout le monde voulait son portrait. Du coup, très vite, j'ai passé les trois quarts de mon temps à dessiner et le reste à donner des cours ou à cuisiner, voilà.
Donc dans ce livre, il y a un texte journalistique ou un texte plus poétique que...
Non, c'est vraiment poétique. C'est vraiment axé sur le ressenti, voilà, et l'analyse extrêmement naïve qui en est ressortie chez moi, c'est-à-dire mais pourquoi ?
On va écouter ce texte dit par Chloé et on se retrouve ensuite.
À Calais. À Calais, il y a une petite ville. Dans cette ville, il y a une école, des magasins, des friteries, des jolies filles. Dans cette ville, il y a une zone industrielle, avec un terrain vague. Dessus, il y a des gens, des milliers de gens. Ils sont là, entassés sur ce terrain vague, parce que dans leur pays, dans leur maison, Il y a la guerre, le danger, la misère. La majorité de ces gens, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants veulent gagner l'Angleterre. L'Angleterre, c'est joli. Pour y aller, on prend le ferry, le tunnel ou l'avion. Ganet, Swahib, Muhammad, Lima et tous les autres, ils ne sont pas nés dans le même pays. Alors eux, pour y aller, c'est caché dans un camion de marchandises, dans un coffre, à pied ou à la nage. Alors eux, pour y aller, ils crèvent, étouffés, coincés, écrasés, noyés. Alors ils sont là, à Calais, sous une tente, une cabane ou sur un autre campement. En attendant l'Angleterre, l'asile, un monde meilleur ou la mort. En attendant demain. Alors ils sont là, en France. La France, c'est un pays civilisé. On sait accueillir les gens. Le quotidien à la jungle, la poussière, la boue, le froid, les violences policières, les attaques de l'extrême droite, les tensions de voisinage, les cailloux qui pleuvent, les feux qui éclatent, le quotidien à la jungle, les sourires, les bonnes odeurs de cuisine pleine d'épices, les rires, les bras tendus, l'espoir et la vie, toujours la vie. Combien de temps encore ? Combien de temps encore allons-nous laisser faire ? Combien de temps encore allons-nous laisser faire ? Combien de temps encore allons-nous nous taire ? Combien de temps encore ?
Manuela Florio, ce texte que vous avez écrit vient d'être dit par Chloé, qui était avec vous à Calais. Quand vous en parlez, toutes les deux, on sent l'émotion que ce séjour sur Calais a suscité, d'autant que vous, il vous renvoie à votre propre histoire.
Oui, oui, mon père a eu l'asile politique en France, il est argentin. Et donc, c'est aussi pour ça que toute cette actualité a résonné en moi, parce que sans le droit d'asile, je ne serais pas là.
Et vous êtes née ici, vous ?
Je suis née à Pontivy. Et donc, mon père a travaillé à l'hôpital de Carhaix, et c'est là qu'il a rencontré ma mère, et je suis née à Pontivy, et mon fils est né à Carhaix. Et je me dis que sans ce droit-là, des millions de gens ne seraient pas là. Sans ce droit-là, je me sens pas légitime de rien faire pour cette cause-là, parce que je dois la vie à cette cause-là.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, choqué quand vous êtes allé à Calais, dans ce grand camp qu'on appelle la jungle ?
La présence policière, je pense. Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué, mais oui, la présence policière qui me semblait complètement démesurée. Et surtout les moyens mis en place par l'État, donc à savoir les énormes pylônes, les fils de fer sur les barbelés. C'était complètement inconcevable de voir des visages d'enfants souriants ou d'Afghans souriants et de se dire qu'ils allaient essayer d'escalader ça et que ça avait été construit avec les sous du contribuable. Enfin, il y a une rumeur comme quoi un migrant coûte tant d'argent à l'État français, mais en vérité, il y a très peu de migrants là-bas qui ont déjà demandé le droit d'asile, et pour ceux qui l'ont demandé, les procédures sont extrêmement longues. Donc la majorité des gens qui vivent là-bas ne touchent pas un centime de l'État français. Et l'État français, par contre, dépense énormément de moyens en CRS, en camions de CRS, en construction de pylônes en béton.
Pour empêcher donc ces migrants de traverser cette frontière qui leur permettrait de rejoindre l'Angleterre, qui est pour la majorité d'entre eux le but.
Oui, 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 pour la majorité. Après, il y en a qui ont décidé de demander l'asile, d'autres qui complètement dépités repartent, d'autres qui ne savent pas, qui se demandent où est-ce qu'ils atterrissent. C'est très compliqué.
Vous avez rencontré ces migrants qui vivent sur Calais ?
Alors oui, C'est vrai, surtout à travers le dessin, parce que je parle pas très bien anglais. Mais du coup, il y a quand même des petites conversations qui se sont faites et puis même des liens très très forts qui se sont noués en quelques jours. C'est vraiment incroyable. C'est très rare de ce qu'il y ait une intensité dans la relation en si peu de temps, en fait. Il y a plusieurs personnes qui me reviennent en tête à ce moment-là. Mais oui, il y avait cet ingénieur soudanais qui était tout le temps très très bien habillé dans la jungle, qui tenait vraiment à être tout le temps impeccable, alors que c'est quand même un bidonville. Et il y a des choses incroyables. Un ami soudanais qui m'a préparé des remèdes de son pays.
La vie continue malgré la misère, parce que c'est une véritable misère que la façon dont ces migrants sont hébergés sur ce camp. Enfin, ils ne sont même pas hébergés, puisque c'est eux qui, de briques et de brocs, se fabriquent des abris.
Oui, 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 c'est complètement déplorable. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et les moyens mis en place, oui. Donc les toilettes, il n'y en a quasiment pas. Les douches, quasiment pas non plus. C'est très, très... très sommaire, voilà, le sol est jonché de détritus, les maladies prolifèrent parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions d'hygiène, il y a de la poussière tout le temps dans leur nez. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est j'ai pas vérifié l'information, mais un Calaisien nous a dit que le terrain sur lequel était la jungle était une ancienne usine d'amiante. Donc, ce qui expliquerait pourquoi ça soit inoccupé. Donc, ça ne m'étonnerait absolument pas, vu les poussières nocives qui...
Donc, Manuela, vous avez passé quelques jours dans ce camp avec votre crayon, votre calepin, et puis vous avez croqué donc des visages de ces migrants, adultes, enfants.
Surtout adultes, en fait, parce que les enfants, on ne les a pas beaucoup croisés. C'était dû en grande partie au démantèlement de la zone sud et au fait qu'il y ait apparemment plus d'enfants au camp de Grande-Synthe. Mais oui, énormément. J'ai jamais autant dessiné de portraits de ma vie, vu qu'ils voulaient tous avoir un portrait à la tour de rôle.
Mais... Et vous en avez gardé quelques-uns pour le livre ?
Oui, 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 j'ai réussi à en garder quelques-uns, mais c'était compliqué quand même.
Et vous écriviez en même temps ou les écrits sont venus après ?
Non, honnêtement, j'étais vraiment tellement choquée, les émotions prenaient tellement le dessus qu'il fallait tout le temps être occupée. Et prendre ce temps-là d'écrire, c'était trop pour moi, je pense. Et les mots sont venus bien une semaine après, et là, oh, ça s'est pas arrêté après pendant deux semaines. Mais oui, c'était impossible d'écrire là-bas.
Les textes sont venus après l'émotion. On prend un peu de distance, et puis là, on écrit.
Voilà, c'est ça. Et puis c'était même une nécessité, du coup, parce que émotionnellement, ça a été très 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 dur là-bas. Et puis surtout au retour, en fait, une incompréhension totale, en fait, de comment c'est possible.
Comment c'est possible de laisser des hommes vivre dans cette jungle ?
Oui, comment c'est possible de juste humainement de pas tendre, enfin je oui, là tous les enjeux géopolitiques et n'ont plus cours, en fait. Juste on est face à un humain qui souffre, qui demande de l'aide, et c'est ça qu'on lui apporte, c'est ça la réponse.
Donc ce livre, c'est pour dire ce que vous avez vécu, mais aussi pour appeler à l'aide.
Oui, pour appeler à l'aide et surtout pour essayer de faire réagir un peu les gens.
Vous comptez le sortir quand, ce livre? Comment est-ce qu'on peut le trouver?
Alors là, j'ai travaillé essentiellement sur des livres d'artistes, d'abord, en prévision du Festival Multiple de Morlaix. Et il y aura une version auto-éditée, là encore, qui sortira dans un mois à peu près, un mois et demi.
Quand vous dites livre d'artiste, c'est...
Alors, le livre d'artiste, c'est vraiment un exemplaire unique. Enfin, ça peut être tiré à, je ne sais pas, un maximum 10 exemplaires. Bon, les coûts sont quand même relativement élevés dans ce cas-là, parce qu'il y a vraiment une notion artistique derrière. C'est des livres entièrement faits à la main, reliés à la main. Voilà, chaque page est faite avec amour.
Et ces livres seront donc... ces livres d'artistes auront le titre à Calais.
C'est ça. C'est ça.
Et on pourra les trouver sur les marchés, dans les endroits où vous vous déplacez.
Exactement. Et si des diffuseurs éventuels veulent se manifester, qu'ils n'hésitent pas à me contacter.
On laissera les coordonnées sur le podcast de la radio. Mais si on veut vous contacter, comment fait-on ?
Alors, donc moi, j'ai un site internet qui est en cours de création et en attendant, une adresse mail, donc manuela.florio@hotmail.fr.
Et on peut vous trouver sur certains marchés, certaines manifestations ?
Exactement, voilà.
On peut donner des...
Au Salon du Livre à l'Envolon et autrement, cet été, de nombreux marchés de créateurs et Salon du Livre, notamment au festival à Melcaret, à Armengaz, où j'animerai aussi des ateliers en linogravure.
D'autres projets, Manuela ?
Oh, plein. Oui, bah des commandes en illustration, des projets de travaux en peinture. Voilà, mais le temps manque entre la diffusion des livres... Et le travail à l'atelier, voilà. C'est...
Et vous comptez conserver ce statut d'auto-entrepreneuse ou est-ce que vous envisagez autre chose ?
Non, je ne pense pas le conserver très longtemps. D'ailleurs, même j'ai beaucoup hésité entre celui-là et puis la Maison des Artistes. Mais du coup, ça me semblait plus facile à mettre en œuvre parce qu'il me fallait un statut rapidement. Mais non, je ne vais pas garder ce statut très longtemps.
Parce que c'est un statut qui ne convient pas forcément à votre activité.
J'entends beaucoup de sons de cloche là-dessus. Et c'est vrai que c'est compliqué de vraiment comprendre comment ça va se passer. Mais j'ai cru comprendre que j'allais être ployée sous les charges très, très prochainement. Donc... Ça va être assez difficile après de pouvoir... c'est déjà financièrement difficile parce que j'ai besoin d'être dans mon atelier tous les jours pour créer. J'ai besoin d'avoir ce temps-là. Sinon, quel intérêt d'aller sur les marchés d'art et sur les marchés et faire des expositions. Mais là, à ça se rajoute, à la diffusion se rajoute toutes les charges, tout ça, enfin, voilà. Et du coup, à la fin, je doute que ça soit très rentable et que le salaire soit très élevé.
Oui, parce qu'au départ, le statut d'auto-entrepreneur donne une certaine exonération de charges, c'est ça, et au bout d'une année, il faut évidemment payer des charges sociales si on veut pouvoir bénéficier de la sécurité sociale et de...
C'est ça, et ça semble assez, assez élevé, et bon, ça m'inquiète un peu, voilà, l'avenir est...
Voilà, donc essayez de trouver une autre solution pour pouvoir pérenniser cette activité.
C'est ça.
Donc avis aux personnes qui souhaiteraient vous rejoindre dans cette aventure, et pourquoi pas vous aider ou vous donner des conseils, Manuela. Ne me reste plus qu'à vous remercier, Manuela, d'être venue nous parler de vos projets et de ce livre d'artiste à Calais. Et puis peut-être à bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.